disait que ça finirait par arriver. Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Ça pourrait bien être le deal du siècle dans le milieu du jeu vidéo. Microsoft met près de 70 milliards de dollars pour racheter Activision et se constituer un catalogue de jeux inégalé. Call of Duty, World of Warcraft, poule aux œufs d'or dans un secteur en pleine expansion. Fausse polémique ou faute politique. Jean-Michel Blanquer bousculé à l'Assemblée sur ses vacances à Ibiza. Le ministre de l'Éducation regrette la symbolique. Dans l'actualité encore, l'échec inflation englouti en quelques pleins sans doute. Le prix des carburants est au plus haut et ça handicape particulièrement les professionnels qui utilisent la voiture tous les jours. Jean-Jacques Bourdin cible d'une enquête pour des soupçons d'agression sexuelle. Et puis le grand bazar au Grand Palais, c'en est bien fini visiblement de la FIAC et de Paris Photo. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien France Inter est fière d'être partenaire de ce formidable documentaire que vous verrez ce soir sur France 2 qui s'appelle Noir en France. Il est signé Alain Mabocou et Aurélia Perrault et à travers des témoignages extra, très à plat, il parle de souffrance, il parle de racisme ordinaire, mais aussi d'avenir, d'espoir, d'une France qui n'est pas le pays des bisounours, mais pas un terrain constamment hostile non plus. On sera heureux d'entendre vos témoignages, vos expériences, vos espoirs, à vous aussi. C'est le téléphone sonne et c'est au 01 45 24 7000.
France Inter. Si la transaction se confirme, ce serait donc du jamais vu. Le géant Microsoft met près de 70 milliards de dollars sur la table pour racheter Activision Blizzard, un poids lourd du jeu vidéo, 7 fois plus cher qu'il y a moins de 10 ans quand le groupe Vivendi de Vincent Bolloré l'avait vendu. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes notre correspondant aux États-Unis, Sébastien. Si le contrat se confirme, il va faire de Microsoft la troisième société de jeux vidéo au monde.
Oui, en termes de chiffre d'affaires, c'est une énorme opération qui est en train de se préciser entre la Californie et l'État de Washington, la plus importante de l'histoire du secteur tout simplement. Et même quand on est assez novice, comme je le suis en matière de jeux vidéo, ces entreprises et ce qu'elles représentent vous parlent forcément. Microsoft, évidemment, c'est le géant informatique fondé par Bill Gates. Et Activision Blizzard, c'est l'éditeur de certains des jeux les plus célèbres de la planète. Vous les avez cités, Call of Duty, World of Warcraft ou encore Candy Crush. Le secteur du jeu vidéo a fortement progressé pendant la pandémie. C'est une industrie qui pèse largement plus lourd maintenant que celle du cinéma. Et Microsoft, avec sa console Xbox, compte y doubler ses investissements. Oubliez donc les tentatives de rachat avortées de TikTok ou de Pinterest. Un recentrage qui est aussi lié, bien sûr, aux possibilités qu'offre le métavers, le monde virtuel, vous savez, où l'on joue avec des avatars. Et puis, il faut dire aussi qu'Activision était un peu fragilisée depuis le mois de juillet. L'action ici a chuté de près de 30% quand les régulateurs californiens ont engagé une action en justice pour des accusations de harcèlement sexuel, de discrimination. Ça a donné lieu à une pétition où un cinquième des quelques 10 000 salariés demandaient le départ du PDG. Il devrait partir après le rachat. Et en attendant, 80 personnes ont été remerciées ou sont sous le coup d'une procédure disciplinaire depuis l'été dernier. Ce qui est sûr, vous l'avez rappelé également, c'est que à plus de 60 milliards d'euros, on est très loin du montant encaissé par Vivendi, l'ancien actionnaire majoritaire d'Activision, qu'il a vendu à partir de 2013 pour environ 7 milliards d'euros.
Sébastien Paour en direct de Washington, merci à vous. Voici qui va donc venir grossir encore la plateforme de jeux Xbox de Microsoft, gros catalogue, de quoi devenir peut-être le Netflix du jeu vidéo. En tout cas, on le voit, le secteur se transforme, toujours plus puissant. Mais il faut bien voir les reins de Microsoft pour réussir un tel défi. C'est l'analyse du rédacteur en chef adjoint du site spécialisé Gamekult, Florian Welter.
Il n'y a vraiment que Microsoft qui a ce genre de moyens-là, de pouvoir faire un achat aussi colossal. Et en plus, normalement, dans ce genre de très gros mouvement, on compense une partie de la valeur en échangeant des actions. Là, c'est seulement de l'argent. Microsoft a annoncé, là, en même temps que le rachat d'Activision Blizzard, qu'il venait de passer le cap des 25 millions d'abonnés. Il y a aussi une autre question qui va rentrer en ligne de compte, c'est la question de l'exclusivité, en fait. C'est que globalement, à partir du moment où Microsoft achète cet éditeur et donc ses franchises avec, il a parfaitement le droit de priver les autres constructeurs et les autres consoles de leur arrivée sur le marché. Alors, ce sera à l'horizon 2023 puisque le mouvement va mettre un petit peu de temps à se mettre en place et à être validé par les instances, s'il est validé. Mais à horizon 2023-2024, on peut se demander, par exemple, si Call of Duty continuera à sortir sur PlayStation. En tout cas, Microsoft peut complètement décider que ce ne soit pas le cas.
Laurent, Florian Welter avec Laurent Kramer, un giga contrat qui fait de l'effet au marché financier. Le secteur des jeux vidéo carrément dopé gagne 8% ce soir et sur cette méga acquisition qui se profile. Un article très complet à lire sur franceinter.fr.
L'image d'un ministre à Ibiza a fait des ordres. Jean-Michel Blanquer fait donc amende honorable.
En tout cas sur le lieu de ses vacances, le ministre de l'Éducation nationale, interpellé par l'opposition cet après-midi à l'Assemblée nationale, reconnaît qu'il aurait sans doute dû choisir un autre lieu pour ses vacances, mais pour le reste, il assume.
D'abord, est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année ? Est-ce que il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n'ai pas fait à cause de ça ? Non, bien sûr. Et troisièmement, est-ce que les décisions auraient été différentes si j'avais été ailleurs ? Non plus. Donc, il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, depuis 2 ans, avec la majorité, avec mes équipes, avec tous les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire.
Voilà, l'Assemblée, l'opposition de gauche a renouvelé ses appels à la démission du ministre. Plus légitime, trop c'est trop, il doit démissionner. Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, c'est aussi ce qu'il dit depuis Strasbourg.
Ça ne changerait pas grand-chose à la pagaille que M. Blanquer a déjà semée, mais disons que moralement et symboliquement, ça aurait une portée qui montrerait qu'on est quand même sensible aux questions de la morale, d'une certaine manière de se comporter. Voyez-vous, quand on exerce certaines fonctions, faut toujours penser à celui ou à celle qui, lui, n'a pas le choix, ou elle n'a pas le choix. Et bon, il faut essayer de faire en sorte que ce que vous faites ne soit pas des bravades à l'égard des autres. Il a eu tort et ça serait bien qu'il s'en rende compte. Maintenant, je pense que profondément, il s'en fout. Monsieur Macron aussi. Ces gens-là pensent qu'ils font partie de ceux qui ont réussi dans la vie et que les autres sont des rien.
Le candidat à la France insoumise avec Louise Baudet qui présentait ce soir sa vision de l'Union européenne avant le discours d'Emmanuel Macron demain devant les eurodéputés pour lancer la présidence française du Conseil de l'Union européenne. À propos de l'épidémie, le Premier ministre annonce ce soir un soutien renforcé pendant 2 mois pour les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs de l'hôtellerie, restauration, événementiel affectés par les récentes restrictions. Aide exceptionnelle au paiement des cotisations salariales notamment. Le gouvernement va par ailleurs ouvrir le rappel aux 12-17 ans qui vivent avec des personnes fragiles. Et puis on attend les premières livraisons du tout dernier vaccin autorisé en France, celui du laboratoire Novavax, susceptible de convaincre les plus réticents à la vaccination car ils n'utilisent pas la technologie ARN messager. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Mais il va falloir attendre un peu plus longtemps que prévu.
Hein. Oui, au moins 3 semaines supplémentaires. La première livraison de Novavax, Xovid, c'est le nom de ce 5e vaccin autorisé en France, était attendu fin janvier, début février. Ce sera finalement la dernière semaine de février, annoncé ce midi la Direction Générale de la Santé. Une livraison d'un peu plus d'un million de doses, puis normalement 800 000 doses chaque semaine au mois de mars. Ce nouveau report n'arrange pas les affaires du ministère de la Santé, qui compte beaucoup sur le produit du laboratoire Novavax pour séduire les Français réfractaires au vaccin ARN messager. Plus classique, le Nuvaxovid est un vaccin à protéines recombinantes déjà utilisé pour la coqueluche ou l'hépatite B. Il nécessite 2 injections à 3 semaines d'écart. S'il avait été disponible à la fin de ce mois, les personnes qui rentreraient dans un processus de vaccination via Novavax n'auraient eu que quelques semaines sans passe vaccinal. Ce retard décale donc d'autant leur accès au précieux QR code. Selon les derniers chiffres du ministère, 4,6 millions de personnes n'ont encore reçu aucune dose de vaccin.
Un vaccin, on le disait donc, dont le gouvernement espère qu'il puisse convaincre les Français non vaccinés qui doutent. En République tchèque, une chanteuse qui voulait à tout prix éviter la piqûre, mais avoir son pass sanitaire, s'est délibérément exposée à la maladie que son mari et son fils avaient attrapée avant Noël. Elle en est morte. Son fils accuse les figures anti-vaccins locales qui, selon lui, ont influencé sa mère.
Le prix des carburants, en une semaine, il a pris entre 2 et 3 centimes.
Et le sans-plomb atteint de nouveaux records, 1,68€ le litre, 1,62€ pour le gazole. L'essence est à son plus haut depuis 7 ans, plus cher qu'avant la crise des gilets jaunes. Et le prix à la pompe complique aussi la vie des professionnels pour lesquels la voiture est un outil de travail, comme cette auto-école de Châteauroux où Juliette G s'est rendue.
Boris Grabowski, le gérant, travaille avec 3 voitures. Pour chacune, il doit faire un plein tous les 4 jours.
La voiture qui est sur la réserve de carburant, donc là, on va aller faire le plein, on n'a pas le choix. 77€ au total, pour 47 litres, c'est ça. J'ai déjà fait une fois 80€ là en début de semaine. C'est vrai qu'on atteint des sommes rarement atteintes.
Il a retrouvé un ticket de caisse de l'an dernier.
L'an dernier, on l'a eu aux alentours de 55€.
En tout, cela représente plus de 2000€ de charges supplémentaires par an pour son entreprise. Mais pas le choix, le gasoil est sa matière première.
Pour le moment, on arrive à travailler sans augmenter le coût pour le candidat, parce qu'on a quand même un rôle social et sociétal. Mais malheureusement, pour la survie d'une entreprise, on va être obligé d'augmenter notre tarif horaire, malheureusement.
Au début de la pandémie, il avait déjà dû dépenser de grosses sommes pour l'achat de protection sanitaire.
On a dû faire plein de frais pour s'équiper pour la désinfection des véhicules, les masques, le gel hydroalcoolique. Au début, on a même dû acheter des housses à mettre sur les sièges. C'est à ce moment-là qu'on a augmenté, parce que ça représentait une charge très importante pour nos entreprises.
Comme ses confrères, il appelle à ce que l'État réduise les taxes sur le carburant pour les auto-écoles, pour que le prix du permis n'augmente pas pour les élèves.
Et l'aide du gouvernement en un seul coup avec un chèque semble déjà loin, sans doute déjà dépensé pour certains. Et sa réponse à la hausse de l'électricité ne fait pas non plus que des heureux. Il a contenu cette augmentation à 4% au lieu de 35% en tordant le bras à EDF, l'obligeant à vendre de l'électricité à perte et massivement à ses concurrents. En interne, l'électricien est secoué. Le PDG, Jean-Bernard Lévy, lui-même parle de choc. Il a dit à ses salariés que cela pèserait certainement lourdement sur les résultats de l'entreprise. L'action s'est écroulée et 4 syndicats appellent aujourd'hui à la grève contre une décision qu'ils jugent scandaleuse et qui aurait pu être différente, selon la déléguée syndicale centrale CFE Énergie, Amélie Henry.
Il y a d'autres alternatives qui auraient pu être envisagées, autrement dit la baisse de la TVA, puisque l'électricité est un bien de première nécessité, aujourd'hui donc qui est taxé à 20%. Or, l'État aurait pu très bien faire le choix de baisser la TVA à 5,5, comme pour tous les biens de première nécessité. Et puis, l'État aurait pu également demander à EDF de développer des offres commerciales ciblées vers les consommateurs d'électricité. Nous nous attendons à ce que derrière, il y ait des velléités de restructuration de l'entreprise. C'est l'avenir énergétique de la France qui est en jeu aujourd'hui. C'est-à-dire que ça va bien au-delà, en fait, de la pérennité de notre entreprise. Le fait d'avoir reçu ce courrier, l'expression, en fait, du président conforte aussi notre action, en fait, syndicale. Il était important qu'en fait, il communique pour qu'il y ait une prise de conscience des salariés sur ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, à la fois au sein de l'entreprise, et on se remobilise en intersyndicale pour préserver et protéger les intérêts de notre entreprise.
Amélie Henry avec Kathleen Comte appelle à la grève le 26 janvier prochain. On l'a appris à la mi-journée. Le journaliste de BFM TV et RMC, Jean-Jacques Bourdin, est visé par une enquête pour agression sexuelle. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Enquête ouverte après la plainte déposée par une ancienne journaliste de la rédaction.
Oui, la jeune femme dénonce des faits qui se sont, selon son récit, produits en 2013. Elle a alors 25 ans. Jean-Jacques Bourdin et elle sont en déplacement professionnel à Calvi, en Corse. Et d'après les dires de la plaignante, alors qu'ils sont tous les deux dans une piscine, il l'attrape par le cou et essaye plusieurs fois de l'embrasser. La journaliste se débat et parvient à sortir de l'eau. Elle affirme que Jean-Jacques Bourdin lui a alors envoyé par la suite quantité de mails et textos insistants. L'animateur lui conteste les faits. « Je n'ai jamais tenté de l'embrasser de force », dit-il. Ni elle, ni jamais personne d'autre. L'enquête a été confiée au commissariat du 16e arrondissement de Paris, là où la jeune femme a porté plainte la semaine dernière. Comme dans toutes ces affaires un peu anciennes, il s'agit déjà de vérifier si les faits dénoncés sont prescrits. A priori, c'est bien le cas, puisqu'en 2013, la prescription était de 3 ans. Autre objet de cette enquête, vérifier s'il y a d'autres accusations pour des faits qui, eux, ne sont pas prescrits.
Jean-Jacques Bourdin qui lance ce soir une nouvelle émission politique avec Valérie Pécresse comme première invitée. La candidate LR a demandé à pouvoir s'exprimer au début de l'émission, mais le programme est bien maintenu. Écho de campagne présidentielle, il n'aura sans doute pas réussi la remontada espérée. Arnaud Montebourg devrait annoncer le retrait de sa candidature dans les prochaines heures. Une vidéo diffusée sans doute sur les réseaux sociaux. Et c'est désormais un rite tous les 5 ans, à l'approche de l'élection, l'Église de France s'engage. Une 60aine de pages rédigées par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France pour inviter les catholiques à voter d'abord et leur donner des pistes de réflexion. Pas de consigne de vote, pas de prise de position non plus contre l'extrême droite, ce qu'elle avait fait en 2002. Ce n'est pas de la frilosité, chacun doit être dans son rôle, assure Éric. Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France.
Je crois que beaucoup de candidats vont réclamer ou se réclamer de l'histoire chrétienne de la France. En tout cas, ça fait partie de la réalité de la France. Ce qui est plus gênant, c'est l'utilisation que l'on peut en faire. Et ce qui importe aussi, c'est le retentissement que cette référence aux racines chrétiennes de notre pays peut avoir. Et ce que nous voulons affirmer, c'est que le christianisme est aussi une force d'ouverture, d'intégration, de dialogue et de choix aussi pour avancer positivement vers l'avenir. Notre texte ne veut pas désigner des bons et des méchants. Notre texte veut aider chaque citoyen à prendre sa décision et à se faire lui-même les raisons de ses choix. Ce que nous voyons, nous, c'est que notre devoir, c'est d'aider les citoyens à agir et à choisir comme des citoyens adultes. Et nous voulons contribuer à enrichir le choix de chacun de raison et de réflexion.
Éric de Moulin-Beaufort, joint tout à l'heure par Delphine Evenou.
Et à 19h15, l'ancien homme fort du Kazakhstan a-t-il joué un rôle dans les troubles des dernières semaines?
En tout cas, il était l'une des cibles des manifestants, l'accusant de continuer à tirer en coulisses les ficelles après 30 ans au pouvoir. Un rôle qui interroge d'autant plus que Nursultan Nazarbayev a subitement disparu il y a 2 semaines. Et le voici qui réapparaît. Nous rejoignons Thibaut Lefèvre. Bonsoir Thibaut. Vous êtes à Aksaro, Thibaut, au bord de la mer Caspienne, là où la contestation a démarré et l'ancien président, je le disais, a donc réapparu aujourd'hui dans une vidéo.
Alors oui, certains l'envoyaient aux Émirats Arabes Unis, d'autres en Russie, voire dans son village natal de Chemolgan, au sud du pays. Et donc c'est finalement à Nursultan, la capitale éponyme, que Nursultan Nazarbayev donc est réapparu cet après-midi dans une vidéo de 4 minutes 30 en kazakh puis en russe. Il est assis derrière un bureau, un costume strict, les mains serrées, l'air grave. Il affirme son allégeance à son successeur.
Kassim Jomart Tokayev a tous les pouvoirs. Il préside le Conseil de sécurité. Il n'y a donc ni conflit ni affrontement à la tête de l'État. Les rumeurs à ce sujet sont absolument infondées.
Des rumeurs donc qui ont pourtant beaucoup fait parler au Kazakhstan. Dans la rue, on ne discute pas de politique, mais à l'abri des yeux et des oreilles du régime, les langues se délient, Talgat est chauffeur de taxi. Par précaution, sa voix a été modifiée.
Je savais qu'il resterait au pouvoir. Je pense ça parce que les membres du gouvernement sont toujours les mêmes. Si Nazarbayev était vraiment parti, tout aurait changé.
Et pourtant, ça a changé. Une purge est en cours au sommet de l'État avec tous les jours depuis plus d'une semaine une éviction ou une démission d'un proche de Nazarbayev.
Thibaut Lefèvre avec Arthur Gerbeau en direct du Kazakhstan. Merci à tous les deux. L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'Indonésie qui a voté aujourd'hui le déménagement de sa capitale Jakarta. La côte de la ville s'enfonce dans la mer. Elle est embouteillée, polluée. L'idée, c'est de construire à Bornéo, qui abrite l'une des plus grandes forêts tropicale au monde, une capitale politique zéro émission. Et puis voici qui serait comme un séisme dans le monde de l'art et plus largement de l'événementiel. 2 salons très importants en France, la Foire internationale d'art contemporain, la FIAC et Paris Photo, historiquement accueillis sous la nef du Grand Palais, pourraient bien se voir expropriés et presque sans préavis la semaine prochaine, parce que la Réunion des musées nationaux qui gère le Grand Palais a subitement lancé un appel à concurrence, ouvrant la voie à l'arrivée d'une société étrangère. Pourquoi et que peut-il se passer? Les dés semblent jetés, Isabelle Pasquier.
La FIAC et Paris Photo vont certainement être remplacées par 2 autres foires au Grand Palais, car le conflit est ouvert entre l'organisateur de ces 2 événements et la Réunion des musées nationaux, la RMN, qui gère le Grand Palais. Pourquoi ce conflit? Il y a eu bien sûr la demande d'indemnité d'1 million d'euros pour l'annulation des 2 foires en 2020, mais surtout il y a la volonté de Chris Dercon, le président de la RMN, d'avoir une foire d'art contemporain beaucoup plus ambitieuse.
Il faut que nous sommes 1 des 3, 4, 5 fois dans le monde entier, on va pouvoir réfléchir ensemble qu'est-ce qu'il faut comme foire pour l'avenir. Et là, on a une spécificité parisienne qui est unique, c'est que de plus en plus, on parle de l'art plus le design, plus les métiers de luxe.
Alors qui pour remplacer la FIAC? On parle de l'arrivée d'Art Basel, le principal concurrent de la FIAC, qui concentre déjà les foires de Bâle, Miami et Hong Kong, avec pour principal actionnaire le jeune milliardaire James Murdoch. Alors les petites et moyennes moyennes galeries s'inquiètent d'une ultra-concentration des foires. Marion Papillon, présidente du comité professionnel des galeries d'art.
Une concentration aux mains de quelques-uns seulement ne garantit pas cette diversité, cette pluralité. Donc j'espère qu'on arrive à garder ça.
La situation devrait être tranchée la semaine prochaine avec la réunion du conseil d'administration de l'ARMN.
On en connaîtra le nom du futur occupant qui s'engagera sur 7 ans et pour 20 millions d'euros.
C'est fini.
Absolument.
Ah bah voyez, parce qu'il y en avait une autre là normalement que je voyais sur ma petite feuille et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, donc c'est là que je vous dis au revoir, c'est ça l'idée.
Et que moi je vous remercie.
Voilà, c'est là et que je vous dis à demain. Bah voyez, on fait tout ça dans l'ordre. Allez, merci beaucoup Hélène, à demain bien sûr. On reste ensemble, nous, pour le téléphone sonne. Noir en France, c'est le thème ce soir. À vos questions, à vos témoignages au 01 45 24 7000. Un mot sur le temps d'abord.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, un temps gris et humide pour demain.
Oui, le soleil ira se réfugier vers les Alpes, vers les Pyrénées. Quelques éclaircies sur le sud de l'Auvergne, sur les côtes du Languedoc-Roussillon grâce à la Tramontane. Partout ailleurs, les nuages seront très nombreux avec en prime un peu de bruine, quelques flocons du Limousin vers le Massif central et le Nord-Est, voire quelques pluies verglaçantes le matin. Attention également aux brouillards parfois givrants dans l'Est. Et puis on a une perturbation qui gagnera la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France avec un ciel couvert mais peu de pluie. Ce temps glissera ensuite vers le sud et l'est en soirée, avec de petites chutes de neige qui s'inviteront parfois jusqu'en plaine du massif central au nord-est, et les sols pourraient blanchir temporairement.
Avec des températures de saison, c'est-à-dire c'est l'hiver.
Exactement, dégelé sur une grande partie du pays encore demain matin, 0 à 6 degrés de l'océan au nord de la Seine et en Méditerranée, et puis l'après-midi 3 petits degrés à Metz, Nevers et Lyon, 6 à Paris et à Toulouse, 7 à Lille, à La Rochelle, on ira jusqu'à 11 à Brest, à Bayonne, à Nîmes et 14 à Nice.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.